Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, avec ce premier dimanche de l'Avent, c'est une nouvelle année liturgique qui commence. Notre Mère, la Sainte Église, dans sa sagesse, a voulu que chaque année nos âmes soient bercées selon le rythme de ce cycle liturgique, qui va nous faire passer du mystère de l'Incarnation à la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ, puis du mystère de notre rédemption dans le sang de notre Sauveur à celui de sa résurrection, gage de la nôtre, puis enfin de la venue du Saint-Esprit dans les âmes au mystère de la grâce et de nos fins dernières. Il est de la plus haute importance pour nos âmes de se laisser porter par la liturgie. Nous devrions ainsi entrer chaque année plus profondément dans la contemplation des mystères qui nous sont proposés par les fêtes liturgiques. Concentrons-nous aujourd'hui sur ce temps de l'Avent qui a pour but de nous préparer à la fête de Noël. En cette fête de Noël, nous allons commémorer trois avènements de notre Seigneur Jésus-Christ, un avènement passé, un avènement présent et un avènement futur. L'avènement passé est aussi appelé avènement historique. C'est la venue du Sauveur dans la crèche il y a plus de 2000 ans. Le deuxième avènement est appelé mystique. C'est la venue de Jésus dans nos âmes par sa grâce présentement. Le troisième avènement est futur. Il est appelé prophétique. Historique, mystique et prophétique. Ce sera le retour de notre Seigneur à la fin des temps, dans sa gloire, pour juger chacun d'entre nous selon ses mérites et ses démérites. Quel est le plus important pour nous de ces avènements? Est-ce le premier? Il est déjà passé. Est-ce l'avènement prophétique? Nous n'en connaissons ni l'heure ni le jour. Non, chers fidèles, l'avènement le plus important pour nous, c'est l'avènement mystique, le second avènement. Pourquoi cela? Car nous avons un réel pouvoir sur lui. Nous avons le pouvoir de nous y préparer. Cette période de l'Avent doit être pour nous une préparation à cette venue de Jésus dans nos âmes au jour de Noël. Et notre Noël, sera le fruit des efforts que nous aurons faits pendant cet Avent. Dans ce but, l'épître de ce premier dimanche de l'Avent nous donne un texte magnifique à méditer, tiré du 13e chapitre de l'épître aux Romains. Tâchons d'en tirer des enseignements et des leçons pour nous préparer à Noël par un Avent pénitent. Les premiers mots de cet épître sont d'ailleurs très forts. Ora est iam, nos de somnos surgere. Il est grand temps pour nous de sortir du sommeil. La Sainte Liturgie place ce texte au premier dimanche de l'année pour secouer nos consciences qui auraient pu s'endormir. Saint Paul appelle sommeil la vie de ceux qui ne s'occupent que des choses temporelles, qui ne font aucun cas des réalités célestes. Au sens premier, c'est le sommeil profond de ceux qui vivent d'une façon toute charnelle, en qui la raison est comme abétie, en qui l'imagination tient la première place. C'est une vie toute d'illusions, un rêve où l'âme court après des chimères. Malheureusement, la plupart des hommes vivent dans un tel sommeil qui les conduit à la mort éternelle. Il nous faut prier pour le salut de ces âmes innombrables qui dorment de ce sommeil de mort, pour que Dieu, par sa grâce, les réveille, qu'elles écoutent la voix de Dieu. N'allons pas croire cependant que ces paroles ne nous concernent pas. Ce sommeil peut s'entendre dans un second sens du sommeil de la négligence, de la tiédeur. Et c'est ici la première leçon que nous devons tirer de cette épître. Il nous est bon, en ce début d'année liturgique, de nous examiner, de faire un état des lieux de notre âme, de considérer ce qui dans notre vie mériterait d'être amendé, ce que nous devrions faire et ne faisons pas. Ne sommes-nous pas en effet pris de quelque somnolence dans notre vie spirituelle? N'y a-t-il pas quelque relâchement dans nos devoirs envers Dieu, des résistances à sa volonté? Aussi saint Paul nous crie « Ora est, il est l'heure ». Ce temps liturgique de l'Avent est vraiment un temps de grâce qui nous est donné par Dieu, par la Sainte Église, pour nous réformer, pour progresser. Profitons-en donc pour faire une bonne confession, qui nous aidera à nous purifier de nos fautes, qui nous donnera aussi, si nous la préparons bien, des lumières et des forces spirituelles pour mieux servir notre Seigneur. Saint Paul nous avertit d'ailleurs, notre salut est plus proche que lorsque nous avons reçu la foi. En effet, le temps que nous avons est des plus brefs. Il faut tirer profit de ce temps court que nous avons. Ce temps si court, c'est le temps qui va de l'incarnation jusqu'au jour du jugement. Saint Jean nomme ce temps la dernière heure, novissima hora. C'est aussi la durée de notre vie, qui est comme une fleur des champs qui se fane si vite, pour reprendre l'image des psaumes. D'ailleurs, si nous vivons pensant avoir encore de longues années devant nous, c'est le signe manifeste que nous dormons, que nous rêvons. Ceux qui veillent avec notre Seigneur pensent chaque jour à l'éternité. Ils comprennent la brièveté de cette vie qui ne fait que passer. Comme dit saint Jacques, qu'est-ce que votre vie, sinon une nuée légère qui en un instant s'évapore? Il faut tirer profit de ce temps. Le temps, c'est de la grâce. L'apôtre continue. Nox precessit, dies autem apropinquavit. La nuit est avancée, le jour s'approche. Il faut donc en déduire que pour saint Paul, nous sommes à l'aurore, cette période qui sépare la nuit du jour. La nuit, c'est le temps de l'infidélité. L'aurore, celui de la foi. Le jour, celui de la vision de Dieu face à face. Après nous avoir enjoint de nous lever du péché et de la tiédeur, l'apôtre va nous expliquer maintenant de quelle manière il nous faut nous lever. Habitiamus ergo opera tenebrarum et indu amor arma lucis. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et prenons les armes de lumière. Nous avons ici un deuxième enseignement à tirer de cette épître. Nous devons combattre le péché et pratiquer la vertu. Combattre les péchés tout d'abord, que saint Paul nomme les œuvres des ténèbres, et ceci pour trois raisons. Premièrement, car elles sont privées de la lumière, de la raison et de la grâce. Pas de lumière pour les faire. Deuxièmement, parce qu'elles sont aussi souvent faites dans les ténèbres. On se cache pour faire le péché. Troisièmement, car ces œuvres conduisent les hommes dans les ténèbres, c'est-à-dire à l'obscurcissement de l'intelligence et du cœur, puis malheureusement aux ténèbres extérieures, là où sont les pleurs et les grincements de dents. Il nous faut ensuite revêtir les armes de lumière, arma lucis, c'est-à-dire acquérir les vertus chrétiennes. L'apôtre, saint Paul, fidèle à lui-même, aime le vocabulaire militaire. Car il y a une vérité profonde derrière ces images martiales. La vie chrétienne est assurément un combat. Il en coûte de fuir le vice et de pratiquer ce qui est juste aux yeux de Dieu. Or, pour mener ce combat, des armes sont nécessaires, les vertus chrétiennes. Saint Paul les appelle armes de lumière, parce qu'elles sont embellies et perfectionnées par la lumière de la raison et surtout celle de la grâce, pour les vertus infuses. Soit encore, parce que les œuvres des vertus brillent sur notre prochain, non pas qu'il faut agir pour être loué des hommes, mais parce que la lumière ne peut être mise sous le boisseau, mais sur le chandelier. Car, comme le recommande notre Seigneur, Qu'ainsi donc votre lumière luise devant les hommes, pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a ici pour nous des résolutions concrètes à prendre pour cet avant. Déjà, la lutte contre les œuvres de ténèbres. Profitez de ce temps de pénitence pour extirper un défaut. Prendre une résolution bien concrète pour lutter contre l'impatience, contre l'orgueil par des actes d'humilité, contre la paresse, contre la médisance, en surveillant sa langue. Les pertes de temps aussi sur les écrans, si funestes à notre vie spirituelle. Et puis, prendre les armes de lumière par une vie plus vertueuse, en soignant davantage notre vie de prière, par la récitation et la méditation de notre chapelet, bien comme il faut, en cherchant à pénétrer les mystères du rosaire, à les contempler, à en tirer des leçons pour nous. Profitez de cet avant pour prendre un livre spirituel, s'instruire de notre sainte religion, nourrir sa méditation par la lecture. Et puis également, profitez de cet avant pour fréquenter plus assidûment les sacrements, pénitence, eucharistie. Profitez de l'avant peut-être pour aller à la messe une fois en semaine, pour se nourrir de notre Seigneur Jésus-Christ, se nourrir de ses vertus. Troisième leçon. Sed indie honeste ambulemus. Comme en pleine lumière, marchons honnêtement. Saint Paul ajoute ici une précision quant aux motifs qui doivent nous diriger dans le changement de vie qu'il nous demande. Il est de la plus haute importance d'agir avec pureté de conscience. Penser, agir sous le regard de Dieu, tout faire pour sa gloire, ne se rechercher en rien. Saint Paul énumère ensuite quelques-unes de ces œuvres de ténèbres que nous devons rejeter. Il en nomme cinq qui s'enchaînent les unes sur les autres. L'intempérance dans le boire et le manger, l'impudicité et la luxure, les querelles et les jalousies. L'Épître conclut en nous donnant le but de ces efforts. Effort d'examen de conscience, effort de fuite du vice, effort d'acquisition des vertus, effort de pureté de conscience. Pourquoi tout cela ? Sed induimini dominum Iesum Christum, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous dépouiller du vieil homme, Adam, et revêtir l'homme nouveau, notre Seigneur Jésus-Christ. Le vêtement est quelque chose de si intimement uni à l'homme qu'il ne fait plus qu'un avec lui. Nous devons donc être, selon saint Paul, être aussi intimement unis au Christ que si nous voulions nous en revêtir. Et lorsque saint Paul adresse ses paroles aux Romains, lorsqu'il adressait ses paroles aux Romains, on comprenait mieux cette image. Les païens endossaient dans leurs cultes secrets, les cultes à mystère, le vêtement de leur Dieu, croyant ainsi recevoir en eux leur Dieu lui-même. Saint Paul, dans une autre épître, l'épître aux Romains, nous parle sans cette image du vêtement, mais le fond est le même. Voici ses paroles. « J'ai été crucifié avec le Christ et je vis. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La vie dont je vis maintenant, en la chair, est une vie dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Je vis, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est très fort, et c'est le but de notre vie. C'est à cela que nous devons tendre. Pour terminer, rappelons que c'est cette lecture, la lecture de ce passage, qui a converti le grand saint Augustin. Il était dans un jardin de Milan, en proie à une grave crise intérieure. Et il se sentait tiraillé par ce qu'il appelait ses vieilles amies, c'est-à-dire ses péchés et ses vices, et d'un autre côté, par la continence qui l'exhortait à le suivre. Voici ce qu'il écrit. « Mes vieilles amies me retenaient par ma robe de chair et murmuraient à mi-voix, « Tu nous congédies ? » Dès ce moment, nous ne serons plus avec toi, plus jamais. Dès ce moment, tu ne seras plus jamais permis de faire ceci ou cela, plus jamais. » La continence, elle, riant de moi, d'un rire encourageant, semblait dire, « Toi, tu ne pourrais ce que peuvent ces hommes, ces femmes. C'est le Seigneur qui m'a donné à eux. Jette-toi en lui sans aucune crainte. » Je jetais des cris pitoyables. « Dans combien de temps ? Dans combien de temps ? Demain, toujours demain. Pourquoi pas tout de suite ? Pourquoi pas sur l'heure, en finir avec mes turpitudes ?» Il entend alors chanter dans le voisinage « Tolle legge, tolle legge, prends et lis, prends et lis. » Il continue son récit. « Je saisis le livre. » Il y avait un livre sur le banc où il était assis. Je l'ouvris et lus en silence le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Et voici ce qu'il lit. Non pas de ripaille et de soûlerie, non pas de coucherie et d'impudicité, non pas de dispute et de jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus. À cet instant même, ce fut comme une lumière de sécurité déversée dans mon cœur, et toutes les ténèbres de l'hésitation disparurent. À l'instant même, ce fut la conversion du grand saint Augustin. Il coupa définitivement avec le péché, pour se jeter dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Que saint Paul, que saint Augustin nous obtiennent donc les grâces de faire un bond en avant, par le rejet des œuvres de ténèbres, par la pénitence donc, par un regain aussi de ferveur dans le service de Dieu en prenant les armes de lumière. Allons d'un pas assuré, éclairé par la lumière de la foi, jusqu'à la crèche, pour adorer notre Seigneur, et le revêtir d'une façon encore plus parfaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.